Merci infiniment d'être fidèle à la radio francophone iranienne. Bienvenue dans le journal. La menace de Trump contre le centre culturel iranien représente un exemple de terrorisme culturel, a souligné le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif. Le soi-disant plan de paix pour le Moyen-Orient du président américain Donald Trump ne passera pas et pourrait conduire les Palestiniens à une nouvelle phase de leur lutte, selon le chef du mouvement de la résistance palestinienne, Hamas. En Syrie, l'armée poursuit sa progression contre les terroristes dans la banlieue sud d'Idlib. C'était les principaux titres de l'actualité. En voici le journal. La menace du président américain Donald Trump de détruire les centres culturels et des civilisationnels iraniens est un exemple clair de terrorisme culturel international et est la continuation de la violation du droit par le régime américain pour briser la résistance du peuple iranien, a déclaré le chef de la diplomatie iranienne Mohammad Javad Zarif. La menace de frapper le patrimoine culturel est une attaque contre l'humanité et son histoire, qui est contraire aux chartes et aux lois internationales, a déclaré Mohammad Javad Zarif dans son discours à une conférence locale sur la préservation des centres culturels et du patrimoine humain commun. Il a ajouté que selon des accords internationaux, comme la Convention de La Haye pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé signé en 1954, la destruction du patrimoine culturel est un crime impardonnable. Et selon le deuxième protocole du même accord, les pays doivent protéger les biens culturels, même pendant les conflits armés. Dans le même temps, le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, qui a qualifié d'illusoire le rêve de Donald Trump pour une rencontre bilatérale avec les autorités iraniennes. Il a déclaré que la seule voie devant lui pour entrer dans les négociations avec l'Iran était de revenir aux conditions d'avant-départ de l'accord multilatéral sur le nucléaire de 2015. Mohammad Javad Zarif a écrit dimanche dans un autre message réagissant à la mauvaise lecture de Trump de son tweet précédent. Il vaut mieux que Donald Trump appuie ses déclarations et décisions de politique étrangère sur des réalités et non pas sur les titres de Fox News ou les données de ses traducteurs persans. Le soi-disant plan de paix pour le Moyen-Orient du président américain Donald Trump ne passera pas et pourrait conduire les Palestiniens à une nouvelle phase de leur lutte, a lancé dimanche le chef du mouvement de la résistance palestinienne Hamas. Nous déclarons fermement que l'accord du siècle ne passera pas. Le nouveau complot contre la Palestine est voué à l'échec, a déclaré dans un communiqué Ismaïl Haniyeh, chef du Hamas, mouvement au pouvoir dans la bande de Gaza. Monsieur Haniyeh a prévenu dans un communiqué qu'il était temps de restituer les droits des Palestiniens par une nouvelle phase du combat contre l'occupation israélienne. Le Hamas a par ailleurs appelé à des pourparlers au Caire, en Égypte, avec les autres factions palestiniennes, incluant le Fatah de Mahmoud Abbas au pouvoir en Cisjordanie occupée, afin de coordonner leur réaction au plan américain. L'autorité palestinienne a pour sa part indiqué vouloir se retirer des accords d'Oslo qui encadre actuellement les relations entre l'entité sioniste et l'autorité palestinienne. Si le président américain Donald Trump annonce son plan de paix, ont affirmé les responsables palestiniens à l'AFP. Si Donald Trump annonce son projet, comme cela est prévu d'ici mardi, l'Organisation de libération de la Palestine, OLP, se réserve le droit de se retirer de l'accord intérimaire, non des résultats concrets de discussion d'Oslo, a déclaré à l'AFP. Secrétaire général de l'OLP. Ce plan va transformer l'occupation temporaire en occupation permanente, a-t-il précisé. L'armée syrienne poursuit sa progression dans la banlieue sud d'Idlib et purifie la localité de Masran et le village de Savamé. Des unités de l'armée arabe syrienne ont purifié la localité de Masran et le village de Samavé au nord-est de la ville de Marat Numan dans la banlieue sud d'Idlib, et ce après de violents accrochages avec des terroristes du réseau Front Al-Nosra et les groupes terroristes. Le correspondant de Sanaa a affirmé que des unités de l'armée opérant dans la banlieue d'Idlib, après avoir purifié le village de Zalané, a pris le contrôle du village de Danar, avait élargi ses opérations vers le nord-est en direction de la localité de Masran et le village de Samavé au sud-est de la ville de Sararib. Une totale convergence existe entre nous et la Turquie pour trouver une solution politique au conflit libyen, a déclaré le président algérien lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan à Alger. Trois jours après le sommet régional d'Alger sur la crise libyenne, le président turc Recep Tayyip Erdogan est arrivé dimanche 26 janvier en Algérie dans le cadre d'une visite d'État de deux jours à l'invitation de son homologue algérien Abdelmajid Tebboune. En plus des relations bilatérales, la situation en Libye a été au centre des entretiens entre les deux chefs d'État. En effet, lors de leur conférence de presse conjointe, à l'issue de leur discussion, le président algérien a fait état d'une convergence totale entre les deux pays sur la nécessité de concrétiser une solution politique selon les conclusions de la conférence de Berlin sur la Libye. Pour sa part, le président turc Recep Tayyip Erdogan a fortement salué l'adhésion de l'Algérie au processus de Berlin, où elle aura selon lui une contribution précieuse et constructive dans le cadre des efforts visant à instaurer la stabilité en Libye. Toujours à propos de la Libye, des affrontements dans la ville libyenne d'Abu Ghraib, située à environ 140 km au sud de Misrata, entre les forces du gouvernement d'Union nationale GNA, reconnue par l'ONU, et l'armée nationale libyenne ANL, puissante milice basée dans l'est de la Libye, ont fait 24 morts et plus de 100 blessés parmi les deux camps. La bataille a fait 12 morts et 55 blessés parmi nos troupes, a déclaré dimanche à Chinois une source de l'ANL. Les forces du GGNA ont également rapporté 12 morts parmi leurs militaires ainsi que plus de 50 blessés au cours des affrontements. Et en Afghanistan, crash d'un avion avec 15 personnes à bord appartenait à une compagnie aérienne étrangère. Les médias locaux ont annoncé le crash d'un avion de ligne dans la province afghane de Ghazni, dans l'est du pays. L'appareil, un Boeing 737, transportait 15 personnes et n'appartenait pas à la compagnie Ariana Afghan Airlines, contrairement à ce qui a été annoncé précédemment, a indiqué à l'agence d'information russe Sputnik le gouverneur de cette même province. Eh bien, chers amis, ici s'achève notre journal d'information. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne. Restez avec nous, on va vous présenter dans une poignée de secondes notre commentaire politique. Aïn al-Assad n'est qu'un écran de fumée. L'Iran nous surprendra, ce dont nous vous parlerons dans notre commentaire politique. L'assassinat de Qassem Soleimani a enfreint l'une des règles essentielles non écrites qui régnait entre l'Iran et les États-Unis, peut-on lire dans un article de Newsweek. Galip Dali, analyste chez l'Institut allemand pour les affaires internationales et sécuritaires et expert pour l'Institut Brookings, a fait paraître un article sur le site web de Newsweek où il affirme que l'assassinat du général de corps d'armée Qassem Soleimani a enfreint l'une des règles essentielles non écrites qui régnait entre les relations Téhéran-Washington. Cette règle a été ceci, guerre par procuration. Les États-Unis, en ciblant ouvertement un responsable iranien de haut rang, auraient aidé l'Iran en échange en prenant pour cible la plus grande base US en Asie de l'Ouest, ont définitivement passé à l'étape supérieure. Mais est-ce la fin de la riposte iranienne? La seule chose qui est sûre est celle-ci. Après la mort de 5 commandants iraniens, les États-Unis pourraient bien se le dire. La vraie riposte de l'Iran reste à venir. La frappe du 8 janvier contre Ayn al-Assad n'est qu'un écran de fumée visant à créer un espace de déni plausible pour une réponse que l'Iran est susceptible de fournir par procuration et de manière asymétrique dans les semaines, voire les mois à venir. La riposte de l'Iran sera probablement un processus plutôt qu'une attaque d'un seul coup, précise l'article. Malgré les risques d'un conflit majeur, il y a beaucoup de raisons qui nous laissent croire que Téhéran ne renoncera pas à une réponse plus foudroyante à l'assassinat de son commandant, malgré son célèbre exercice de la patience stratégique. Car premièrement, l'absence d'une réponse ferme pourra encourager les Américains à multiplier les attaques similaires. Et surtout que la vision de l'Iran envers la sécurité régionale repose dans une large mesure sur ses coopérations avec ses alliés et partenaires régionaux. L'Iran adopte une doctrine de défense avancée dans laquelle il lie fortement sa sécurité nationale à son idée de la sécurité collective. En tuant d'un seul coup le principal dirigeant et des stratèges de cette doctrine, et ce alors qu'il était accompagné du haut commandant irakien, les États-Unis ont lancé un défi à l'Iran, mais aussi à l'ensemble de ses alliés qui ont tous juré la vengeance. Il n'est pas facile de prédire la nature de la méga riposte à venir, mais les déclarations officielles des responsables iraniens et des alliés régionaux de l'Iran, ainsi que les évolutions qui se sont produites dans la région après l'assassinat du général Soleimani, nous fournissent des indices. En effet, un Moyen-Orient sans les Américains est une grande victoire géopolitique majeure, conclut cet article.